deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 Dans toutes les directions, deuxième épisode. Toutes les directions, All the Directions, c'est le nom d'une photo réalisée à Nantes en l'an 2000 par l'artiste roumain Mircea Cantor. Qui est l'homme sur la photo? Qui est cet improbable autostoppeur muni d'une pancarte blanche? Homme indécis? Homme égaré? Homme libre, livrant son destin au hasard? D'où vient-il? Dans quelle direction ira-t-il? Qu'est-il devenu ensuite? Car la photo fixe un instant. Il y a un avant, un après. Dans les nouvelles qui suivent, les auteurs réinventent l'histoire de l'homme sur la photo, ou l'histoire de celui qui croise cet homme, ou l'histoire de celui qui ne sait pas, qui ne veut pas choisir.
La pluie a cessé, le vent aussi. Le ciel est encore gris, mais les lourds nuages se sont éloignés. C'est le moment de mettre un pied dehors, quitter cette hutte en bois qui a servi de refuge pour la nuit. Pas de petit déjeuner, pas de dîner hier soir non plus. Ventre vide depuis le sandwich de midi. Heureusement, deux canettes de bière pour se réchauffer l'esprit. Pas vu le moindre individu depuis 2 jours. De toute façon, les autres ne le voient pas non plus, ou font semblant de l'ignorer. Lui n'a pas de chien pour se protéger. Sa galère lui suffit. Ne pas l'imposer à un pauvre animal qui n'a rien demandé. Il s'est mis à chanter. Ne comprend pas tout ce qu'il dit. C'est en anglais, mais ça parle de liberté, lui a-t-on affirmé. Être libre, c'est toujours ce qu'il a crié. Mais là, a-t-il vraiment choisi? Car la faim en fait partie. Il s'est remis à marcher, sans savoir où aller. Ses pieds lui font mal, il n'ose pas les regarder. Il a soif, mais plus de bière pour apaiser son gosier. Il vient de se baisser pour ramasser une sorte de pancarte en forme de plaque d'immatriculation. Rien n'est inscrit dessus. Il sourit, puis la brandit et la place à hauteur de sa poitrine. Une idée. Faire comme si c'était pour de l'autostop. Mais la pluie s'est remise à tomber et le vent a soufflé aussi. Mauvaise passe pour un autostoppeur improvisé seul sur une île où les véhicules automobiles ne sont pas admis à circuler.
Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again.
Quand la photo avait été prise, il n'en était qu'au début de sa vie d'homme. Il s'était retrouvé un beau matin aux abords de la zone portuaire, semblant un peu paumé. C'était tout lui. Face à un choix, il avait toujours été incapable de prendre une décision. Il avait pris l'habitude de s'en remettre au temps qui passe. Ce fameux temps qui finit par arranger les choses, pensait-il. Il avait traversé son enfance, puis son adolescence de cette manière-là, sans vraiment s'en rendre compte. Il avait grandi, était devenu adulte, et ce matin-là, non, il n'avait pas choisi d'être là. Il n'attendait personne, et personne ne l'attendait plus. Il n'avait nulle part où poser son sac. Alors, oui, il partait. C'est tout ce qui lui restait à faire. Mais il ne savait ni comment, ni où partir. Son histoire était simple, presque banale. Il était jeune et il avait aimé deux femmes. L'une, Madame Hayat, il l'a toujours appelée ainsi, avait 20 ans de plus que lui. Il y a 2 semaines, en montant chez elle, il avait trouvé l'appartement totalement vide, avec un mot épinglé sur la porte. « Mets les clés dans la boîte aux lettres, le propriétaire les récupérera. » Elle avait disparu, sans lui laisser d'adresse. L'autre, Silla, était de son âge. Elle l'avait mise à la porte le matin même, après une dernière nuit au bout de laquelle il n'avait pas été capable de lui dire si oui ou non il voulait s'engager dans leur histoire d'une façon plus concrète. Magnani, elle l'avait quand même déposé à cet endroit. Elle lui avait mis entre les mains une pancarte blanche et un gros feutre noir en lui disant qu'il n'avait qu'à faire du stop et qu'il trouverait bien quelqu'un pour l'emmener là où il voudrait. C'est à ce moment que la photo avait été prise, sans qu'il s'en rende compte. Il y avait plus loin un groupe d'étudiants des Beaux-Arts en pleine séance de prise de vue. Et puis voilà, le temps s'était mis à grignoter inexorablement les jours, les mois, les années, et à en éparpiller tous les protagonistes. Or, depuis, il y en avait eu un qui s'était fait un nom dans le monde des arts photographiques, et même une renommée internationale. C'était, du groupe d'étudiants, celui qui avait appuyé sur le déclencheur de son appareil photo. Et c'est ainsi que 20 ans plus tard, Silla, celle qui avait à l'époque viré notre anti-héros, apprit dans les pages du journal que la ville venait d'acquérir une œuvre de jeunesse d'un artiste roumain qui avait fait ses études ici, à l'École des Beaux-Arts. Évidemment, une photo illustrait cet article. Mais n'étant pas plus intéressée que ça par cette information, elle avait fermé le journal et était passée à d'autres occupations. Pourtant, dans son cerveau, il y eut quelque chose qui l'intriguait. Une impression de déjà-vu, comme un souvenir qui tentait de forcer sa mémoire. Elle reprit son journal, le rouvrit. Elle eut alors le besoin de s'asseoir. Et là, le temps. Ce fameux temps qui finit si bien par arranger les choses se suspendit encore quelques secondes. Oui, elle n'avait plus de doute, elle se rappela de tout et reconnut même l'endroit. Un large sourire éclaira son visage, elle prit son portable, m'appela et me dit « Chérie, tu ne vas pas me croire, mais tu es en photo sur le journal. »
C'était un jour particulièrement froid, malgré le ciel bleu. J'avais terminé mon service au McDo et je partais en vélo vers le parc des chantiers où à l'époque, je suivais des cours pour passer le DAEU. Ce devait être en février 2000, si je me souviens bien. À la nuit tombée, après mes cours, je repartais vers mon appartement, une pièce humide au rez-de-chaussée d'une ancienne maison de rusée, coin cuisine, douche et toilette dans le couloir. C'était mon premier chez moi, après 2 années d'errance et de démarches pour avoir mon permis de séjour. Quand j'y repense, je suis moi-même sidérée par la détermination dont j'ai fait preuve à l'époque pour quitter mon village camerounais, où l'on voulait me marier de force à un cousin détestable, et rejoindre ma tante à Nantes. J'étais tellement fière quand je téléphonais à ma mère pour lui dire que oui, je travaillais, j'étais autonome, j'avais des papiers en règle, je reprenais des études, je voulais passer l'équivalent du bac, des concours pour devenir enseignante, et que non, je ne rentrerais pas au pays. J'avais choisi mon ailleurs. Ce jour-là, vers les quais du hangar à bananes, j'étais passée à vélo à côté d'un drôle de type. Il était jeune, maigre, crâne rasé. Je me souviens m'être dit qu'il avait la tête d'un mec qui sort de tôle ou qui a été interné. Il avait l'air un peu perdu et semblait faire du stop avec une pancarte dans la main. Sauf que sur la pancarte, il n'y avait rien d'écrit, elle était blanche. J'ai été tellement perturbée que j'ai refait le tour du pâté de maison et je suis repassée devant lui pour m'assurer que je n'avais pas rêvé. Juste avant lui, j'ai remarqué un appareil sur un trépied et j'en ai déduit qu'il faisait une photo ou que quelqu'un le photographiait. J'ai failli m'arrêter pour lui demander des précisions, mais j'étais déjà un peu en retard pour les cours et j'ai continué mon chemin. Je me souviens avoir eu beaucoup de mal à écouter et à me concentrer. Je repensais sans cesse à ce gars bizarre. Avait-il une démarche artistique ou militante? Qui voulait-il interpeller et pourquoi? Pourquoi était-il installé au milieu de nulle part? Voulait-il dire « je veux partir, aller ailleurs, n'importe où, pourvu que ce ne soit pas ici » ou bien « peu importe où l'on est, l'important c'est de partir » ou encore « ici c'est comme ailleurs, ce n'est pas le nom du lieu qui fait la vie » à moins que ce ne soit un appel au secours du style « emmenez-moi » ou pire, un mec qui ne sait plus trop ce qu'il fait, qui lance une bouteille vide à la mer avant de se jeter du pont. En sortant de cours, je suis retournée à l'endroit où je l'avais vu, en me promettant de lui proposer un toit si je le retrouvais prostré. Pendant le cours, j'avais imaginé tout un roman. Je l'emmenais chez moi, je le réconfortais, je le sauvais, il m'épousait. Mais bien sûr, quand je suis arrivée, il faisait nuit et il était parti. Son image m'a poursuivie longtemps. J'ai cherché, mais jamais je n'ai pu savoir qui il était ni d'où il venait. Et puis, j'ai oublié. Et le temps a passé. Je suis maintenant professeure à l'école élémentaire Pauline Roland et j'organise très souvent des sorties. Il y a un mois environ, je suis allée au musée des Beaux-Arts avec ma classe. Les élèves de CM sont beaucoup plus sensibles qu'on ne le croit aux œuvres d'art. 10-11 ans, c'est une période bénie, où l'enfant n'est pas encore trop pollué par les réseaux sociaux et les perturbations de l'adolescence. Je les aime, mes CM. Je partage beaucoup avec eux et mes projets artistiques leur plaisent autant qu'à moi. Nous traversons le musée avec notre feuille de route, une recherche à effectuer pour chaque petit groupe de 6 élèves et son accompagnateur. Tout se passe au mieux. Jusqu'à ce que je me retrouve soudain à la chapelle de l'oratoire, où est présentée une exposition dans le cadre de la saison France-Roumanie. Une photo attire mon regard, et je plonge, 20 ans en arrière. Je suis brusquement jeune, combattante, déterminée, fragile et romantique. Je regarde autour de moi, et c'est comme un brouillard qui m'entoure. Qui sont ces enfants? Dans quel pays? Dans quelle ville? Est-ce que je partage ma vie avec quelqu'un? Qui est cet homme sur la photo? N'est-ce pas avec lui que je devrais être? Et d'ailleurs, n'est-ce pas moi, de dos, un peu plus loin sur l'image? Envie de traverser le temps, l'espace, me fondre dans ce moment unique. Cela ne dure que quelques secondes probablement, mais certains de mes élèves ont vu mon trouble. Maîtresse, maîtresse, est-ce que ça va? Mes yeux sont pleins de larmes lorsque je les rassure. j'ai enfin le nom de cet homme qui a marqué mon âme. De retour à la maison, mon mari et mes deux enfants s'étonnent de mon air absent. « Ça s'est bien passé ta sortie ?»«
Oui, mais la journée a été fatigante. Je vais me coucher tôt ce soir. »
Dans mon lit, le sommeil me fuit. Comme c'est étrange la vie. J'ai quitté le Cameroun il y a si longtemps. Je voulais un port d'attache. Je me suis fixée tout de suite à Nantes et je n'en ai pas bougé. Et pourtant, mon chemin a croisé celui de cet homme qui se dit habitant du monde et a intitulé sa photo « All Directions ». Ne faudrait-il pas nommer autrement le hasard, y voir un signe ? Ce soir-là, j'ai décidé de tout lui raconter et le lendemain, j'ai écrit ma lettre, comme dans une sorte d'urgence. Il ne fallait pas passer à côté de cette occasion d'ouvrir les portes de ma vie, regarder ailleurs, dans d'autres directions, dans toutes les directions. Et me voici devant ma boîte aux lettres tremblante, à la main, une enveloppe qui vient de Roumanie.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
JTFM 91.2, les ateliers des Valounais.
I'm standing at the crossroads.
Je vais bien. Le fitness y est pour beaucoup. Ça m'a permis de remonter la pente. Au départ, c'est Olivier, mon collègue, qui m'a convaincu de l'accompagner. Et puis, peu à peu, j'ai mordu au truc. Quand on devient accro, ça change beaucoup de choses. Pour avoir des résultats, il faut arrêter les conneries, la bibine, la fumette, les soirées à rallonge. Pour ceux qui vivent en solo, c'est pas évident de respecter un cadre, une hygiène de vie. La muscu m'a imposé cette discipline. Bien après, Olivier m'a avoué qu'il était en service commandé à l'époque. Mon travail commençait à souffrir de mes écarts. J'allais me faire virer. Avec le recul, je sais que je l'ai échappé belle. J'avais déjà assez de problèmes comme ça, je n'aurais pas résisté à la perte de mon job. La vie, parfois, c'est comme un carrefour sans indication. On prend une direction au hasard. Là, c'était la bonne. Ça fait 5 ans que je m'y suis mis. 5 ans et 15 kilos de muscles en plus. Il n'y a pas photo. Je viens au club presque chaque jour, une heure, plus quand on discute entre costauds. C'est du plaisir et de l'émulation. On compare nos performances, on échange des conseils. Exercices, techniques, régime, compléments alimentaires. On parle aussi look et nana si on est entre hommes. Silhouette, barbe, tatouage. Attention, il y a des filles dans notre groupe, des acharnées de la fonte. Celles-là, c'est comme des frangines. Elles bossent dur comme nous, on fait pas la différence. Mais bien sûr, on raconte pas nos histoires de meufs avec elles. Dans l'ensemble, on n'a pas trop de difficultés. Après, ça dépend de chacun. Une petite moitié est en couple, plus ou moins monogame. Les autres profitent. À force, ils m'ont convaincu d'aller sur les applis de rencontre. Au début, je ne voulais pas. Sans doute que je rêvais encore du grand amour, comme celui que j'avais cru vivre. Pour mon profil sur Tinder, c'est Quentin qui a scénarisé la photo. Il m'a shooté de trois quarts avant, en train de faire un squat avec le dragon sur mon biceps gauche. Je trouvais ça too much, mais au final, il avait raison. Je reçois presque assez de likes pour me contenter d'y répondre. En fait, je match ou je like seulement des femmes qui affichent leurs photos. Ça évite les surprises et le perdre mon temps. De l'humour pour amorcer, en espérant du répondant en face. 4 ou 5 échanges en ligne, normalement, ça suffit. Sinon, je ghost, je disparais. Dans la semaine, un date, dans un lieu public, ça rassure. On voit si le courant passe. Si oui, on va chez moi ou chez elle, jamais à l'hôtel. Tinder, c'est pas fait pour se compliquer la vie. Et la mienne, elle est devenue super simple. Le travail, le fitness, Tinder et Netflix. Le travail pour avoir ma place et gagner correctement ma vie, le fitness pour être au top et Tinder pour les plans cul. Netflix, c'est différent. C'est mon arme contre la déprime. Elle me saute dessus des fois après une soirée où tout baigne. La femme qui coche toutes les cases repart. Je suis vidé comme après une séance au club. Pas sommeil. Et voilà que je me mets à penser à toi ou même à te parler comme maintenant. Alors je me branche, je chope une série et je mate les épisodes jusqu'à l'abrutissement. Ce matin, en partant bosser, j'ai croisé ce type bizarre à un carrefour désert. Il tenait une pancarte effacée, avec l'air d'avoir passé la nuit à attendre qu'une voiture l'emmène, Dieu sait où. Le visage cabossé de ce bluesman qu'on était allé voir ensemble. Tout m'est revenu d'un coup. La voix caverneuse du chanteur, son Stetson vissé sur le crâne. Toi, la main sur ma cuisse, la tête sur mon épaule. Ton parfum. Et le dernier morceau qui foutait un cafard tenace et qui se terminait par « Leaving you was my only mistake ». Ma seule erreur, c'est de t'avoir quitté. I could not unravel leaving you my only mistake. Oh, leaving you.
Quand il sortit de la conserverie, le soleil était encore haut dans le ciel. Le vent tiède de l'été naissant soufflait sur le petit port un air de vacances, des envies de flâner ou de se laisser vivre. Aux terrasses fleuries des restaurants, les serveurs affairés commençaient la mise en place pour le service du soir et des touristes arrivés en reconnaissance rôdaient déjà autour des menus affichés dans les rues piétonnes. Les collègues de l'usine lui avaient proposé un peu plus tôt dans l'après-midi d'aller boire un verre à la sortie du boulot, mais il avait décliné l'offre. Elle l'attendait pour faire des courses hebdomadaires. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, ils travaillaient déjà à la conserverie. Un travail répétitif et abrutissant, mais bon, c'était seulement temporaire, juste le temps d'économiser un peu. Ensuite, il partirait pour les States. Il vivrait là-bas de sa guitare, vagabonderait sans entrave, à la faveur des opportunités qui voudraient bien se présenter. La vie de bohème, quoi. Elle avait été immédiatement séduite par ce rebelle iconoclaste et ses projets un peu fous. Il avait été charmé de savoir la faire rire et séduit à son tour. Très vite, ils ne voulurent plus se quitter et dénichèrent un minuscule appartement au cœur de la vieille ville. Ils durent s'installer, les économies destinées au grand départ fondirent comme neige au soleil. De toute façon, ils n'y pensaient déjà plus ou presque. Arriva la petite, il fallut bien entretenir la famille. Le boulot temporaire à l'usine se transforma en CDI. Les projets de voyage n'étaient plus que de lointains souvenirs. La vie de couple fit son œuvre centrifuge et peu à peu, il ne fréquenta plus aucun de ses amis, pour lesquels elle nourrissait peu d'estime. Les cinq collègues s'étaient attablés dans l'atmosphère ouatée d'un pub cossu et sirotaient leur bière en parlant boutique. Finalement, ils s'étaient laissés convaincre, sans trop de résistance, de les accompagner. Un verre, un seul, et puis ils rentreraient. Ils iraient un peu plus tard au supermarché, voilà tout. Quand même, ils avaient bien le droit de décompresser un peu. À la troisième bière, une douce insouciance sur raison de ses bonnes résolutions. Et lorsque les cinq collègues se séparèrent bien sagement devant le pub, alors qu'il était encore tôt, lui se dirigea sans hâte, avec l'appréhension d'un gamin qui s'apprête à faire une bêtise, vers le centre névralgique de sa jeunesse trop brève. Tant pis pour la corvée de supermarché, d'aller essuyer une sérieuse scène en rentrant. Mais une virée rue de la Soif, c'était tout ce dont il avait envie à l'instant. Quand il arriva rue de la Soif, la soirée ne battait pas encore son plein. Mais l'atmosphère était déjà en réjouissance. Au peuple médiéval, c'était bondé, il y avait concours de fléchettes. Et la musique se déversait dans la rue pavée par les portes ouvertes. On entendait à l'intérieur de joyeuses exclamations qui ponctuaient la partie et émaillaient de leurs éclats un gai brouhaha, annonciateur de chaleur humaine et de plaisirs encore à venir. Attablées dehors, quatre jeunes femmes s'esclaffaient bruyamment au récit hilar de l'une d'elles qui narrait en hurlant de rire ses dernières mésaventures amoureuses. Dans l'étroite rue médiévale, tout entière vouée à l'industrie bistrotière, il restait juste la place de se faufiler entre les terrasses branlantes disposées de part et d'autre qu'une clientèle déjà gentiment éméchée avait prise d'assaut. Devant le minuscule estaminet La Bonne Descente, d'où s'échappaient des éclats de rire, un groupe de jeunes gens, garçons et filles, chahutaient tant et plus, menaçant l'équilibre précaire de deux tables sur lesquelles ils s'étaient juchés à plusieurs. On était vendredi, la soirée la plus animée de la semaine. Tout ce que la ville recelait de fêtards, de bamboucheurs, de noctambules se retrouvait là invariablement, dans la ferme intention de faire la nouba jusque tard dans la nuit. De petits groupes en liesse déambulaient d'un bar à l'autre, se faisaient et se défaisaient au gré des rencontres. La plupart des clients ici étaient déshabitués, et il n'était pas rare de voir quelqu'un traverser la rue avec sa chopine commandée dans un troquet pour rejoindre une connaissance attablée à la terrasse du bistrot d'en face. Derrière les épais vitraux de la truquifile, les joueurs d'échecs buvaient au coude à coude avec une bande d'étudiants bordés qui menaient joyeux charivari autour d'un jeu de comptoir que plus personne ne prenait au sérieux. Au vieux Saint-Sauveur, certains étaient venus sans se concerter avec leurs instruments. Et plus tard dans la soirée, régalèrent d'un bœuf, une assistance que l'ivresse ravissait tout autant que la convivialité de l'instant. Tous scandaient bruyamment la musique, qui des pieds, qui des mains, et l'alcool aidant, se sentaient vibrer d'un amour tout neuf pour leurs voisins de tablé. Il quitta la rue 5 heures plus tard, et quand, laissant la fête derrière lui, il se retrouva seul, son allégresse retomba d'un coup. Il s'en voulut alors d'avoir cédé à son impulsion. Titubant légèrement, il décida de faire un détour par le port, autant pour diluer les vapeurs d'alcool que parce qu'il n'était pas très pressé de devoir s'expliquer de son manquement auprès de sa femme. Délaissant les pavés du quai qui restituaient doucement la chaleur de la journée, il entreprit de longer les pontons d'une démarche mal assurée. Lorsqu'il tomba à l'eau, il se débattit à peine. Et se sentant happé vers le fond, il eut juste le temps de penser à « bah, je n'aurais plus à choisir ».
Vous avez écouté les textes « Libre » de Lucien Chrétien, « Celui dont l'histoire n'en est pas vraiment une » de Michel Lannes, « Ailleurs » de Clotilde Fizène, « Crossroad » de Henri Burcard, « Le choix » de Pascal Audouard. Ces nouvelles sont lues par leurs auteurs. Réalisation de l'émission Sylvie Bauget. Réalisation technique Dominique Bernard et Luc Richard. Voix Marie-Jeanne. I'm so tired of crying, but I'm out on the road again.
JTFM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.